Elisabeth Gaskell, La destinée des Griffiths. Chapitre 1. J'ai toujours écouté avec un vif intérêt les traditions répandues dans tout le nord du pays de Galles sur Owen Glendower, et je comprends à merveille que le paysan gallois ait conservé pour ce héros une admiration profonde. On ne se figure pas combien les habitants de la principauté furent joyeux lorsque, il y a 15 ou 16 ans, l'université d'Oxford proposa l'histoire d'Owen Glendower pour sujet de poésie galloise. Il était impossible, en effet, de choisir un thème qui flatta davantage la fierté nationale. Peut-être ne savez-vous pas que, même à notre époque de lumière, ce grand capitaine est tout aussi révéré par les Gallois pour la puissance qu'il avait comme magicien que pour son courage et son patriotisme. Owen a dit, en parlant de sa personne, ou Shakespeare a dit pour lui, ce qui est à peu près la même chose, « À ma naissance, la voûte du ciel était remplie de corps flamboyants, je peux faire surgir les esprits du sein de la mer profonde. » Et parmi les Gallois d'un rang inférieur, il en est bien peu qui songeraient à lui poser la question irrévérente que lui adresse Hotspur. Au nombre des souvenirs qu'a laissé la puissance magique de notre héros et l'ancienne prophétie qui fait le sujet de notre histoire. Lorsque David Gam tenta d'assassiner Owen à Mackinleth, il était accompagné du dernier des hommes que Glendower eût jamais soupçonné d'être avec ses ennemis, Rhys ap Gruffydd, son parent, son vieil ami, plus que son frère, consentait à devenir son meurtrier. Owen pouvait pardonner à David Gam, non pas au traître maudit qui avait eu son affection. Toutefois, il connaissait trop le cœur humain pour désirer la mort de Gruffydd. Avant de le quitter, il se rendit au cachot où ce misérable était déjà en proie aux remords les plus amers et prononça les paroles suivantes. « Je te condamne à vivre, car je sais que tu ne demandes qu'à mourir. Tu dépasseras les limites ordinaires de la vie humaine afin de rester plus longtemps un objet d'horreur et de mépris. Tu seras montré au doigt par les enfants eux-mêmes qui, en te voyant, s'écrieront d'une voix sifflante « Voilà celui qui a voulu tuer son frère !» « Car je t'aimais plus qu'un ami, Rhys ap Gruffydd. Tu vivras pour voir ta famille décimée par les armes. Tous les tiens seront maudits. Ils verront leur domaine fondre et disparaître comme la neige au printemps. Leur fortune s'évanouira, quel que soit l'état d'or qu'ils aient pu amasser. Et quand la 9e génération aura quitté ce monde, ton sang ne coulera plus dans les veines d'aucun homme. À cette époque, le dernier mâle de ta race m'aura vengé. Le fils aura tué son père. » Telles furent les paroles qu'adressa Owen à son perfide ami, et, suivant la tradition qui les rapporte, la destinée qu'elle prédisait fut accomplie dans ses moindres détails. Quelle que fût leur manière de vivre, leur âpreté au gain ou bien leur avarice, les Griffiths ne parvenaient pas à s'enrichir ou voyaient leur trésor disparaître sans la moindre cause apparente. À la fin, cependant, les années parurent avoir affaibli la puissance de la malédiction d'Owen. Il fallait, pour qu'elle revînt à la mémoire, qu'un événement fâcheux arrivât aux Griffiths. Et la foi qu'elle avait inspirée dans l'origine s'éteignit presque entièrement dès la 8e génération, lorsqu'on vit l'aîné de la famille épouser une Miss Owen, qui, par la mort de son frère, se trouva tout à coup en possession d'une fortune, sinon considérable, au moins suffisante pour démentir l'ancienne prophétie. Par suite de cet héritage, les deux nouveaux mariés quittèrent le mince domaine patrimonial que les Griffiths possédaient dans le Merionethshire pour aller habiter celui des Owen, situé dans le comté de Carnarvon, où ils oublièrent la malédiction qui pesait sur leur famille. Si vous allez à Crickhaeth, en venant de Tremadoc, vous passez auprès de l'église paroissiale d'Innisinahan, bâti dans une vallée marécageuse qui descend des montagnes jusqu'à la baie de Cardigan. Ce bassin, dont la mer paraît s'être retirée à une époque assez moderne, présentait alors à son origine la triste fécondité qui caractérise souvent les marais de cette espèce. Un peu plus loin, tout en conservant le même caractère, il paraissait encore plus désolé. Une épaisse forêt de sapins rabougris et maladifs couvrait le haut des montagnes. Beaucoup d'entre eux étaient morts, leur écorce gisait sur la terre brune, et les troncs blanchis, vus à la clarté douteuse qui s'efforçait de traverser la feuillée, ressemblez à des spectres et vous glacez d'effroi. » En se rapprochant de la mer, la vallée s'élargissait, mais sans devenir plus riante. Un épais brouillard lui dérobait le ciel la plus grande partie de l'année, et les travaux d'une ferme, qui partout anime le paysage, ne donnaient à celui-ci ni mouvement ni gaieté. Cette vallée formait la plus grande partie de la fortune dont venait d'hériter la femme de Sir Griffith et renfermait dans sa région supérieure Bodowen, l'ancienne résidence de la famille, un édifice carré aux proportions massives et qui avait bien juste les ornements nécessaires pour se distinguer de la maison de ferme. C'est à Bodowen que nos jeunes mariés étaient venus fixer leur demeure et c'est là que Mrs. Griffith donna le jour à deux enfants, Llewellyn, futur héritier des domaines et du titre de la famille, et Robert, qui, dès l'âge le plus tendre, fut destiné à l'Église. La seule différence qu'il y eut dans la position des deux frères, jusqu'au moment où le cadet fut placé au collège, c'est que Llewellyn était invariablement gâté par tous ceux qui l'entouraient, tandis que Robert était gâté et châtié tour à tour. On trouvait à merveille que le futur squire ne profitât nullement des leçons du prêtre gallois qui lui servait de précepteur. Mais il arrivait de temps en temps que Sir Griffith gourmandait Robert de sa paresse en lui disant que plus tard il aurait à gagner son pain et qu'en sa qualité de cadet, il devait faire de bonnes études. Je ne sais pas où l'aurait conduit cette alternative de sévérité et d'indulgence et comment il se serait tiré de ses examens si, avant d'arriver là, notre cadet n'avait appris la mort de son frère, qui venait d'être emporté en quelques jours à la suite d'une orgie. Robert fut naturellement rappelé dans la maison paternelle, et comme la science ne lui était plus indispensable, on décida, non moins naturellement, qu'il ne retournerait pas à Oxford. C'est ainsi que notre cadet, à demi-instruit, mais non pas inintelligent, se trouva réinstallé à Bodowen, où il perdit son père quelques années après. Il n'est pas très rare de rencontrer des gens de la nature du nouvel héritier. Robert, en général, était doux, indolent et se laissait facilement conduire. Mais une fois qu'elle était éveillée, sa fureur devenait tellement vive qu'il en redoutait la violence et il lui arrivait parfois d'étouffer la colère la plus motivée dans la crainte d'arriver à perdre tout empire sur lui-même. S'il avait fait de bonnes études, il est probable qu'il se serait distingué dans les branches de la littérature qui demande plus d'imagination que de jugement. Tel qu'il était, et dans le milieu où il se trouvait placé, le jeune Griffith révéla son goût littéraire et artistique en réunissant une collection d'antiquités et de manuscrits gallois qui aurait excité l'envie du docteur Pub lui-même si le docteur eût vécu à cette époque. Un trait caractéristique de celui-ci, que j'ai oublié de mentionner, et qui surtout le distinguait des hommes de son rang, c'est qu'il ne buvait pas. Était-ce par répugnance ou par crainte de lui-même qu'il évitait de s'enivrer? C'est ce que je ne saurais dire. Mais à l'âge de 25 ans, il était généralement sobre, chose tellement rare dans son pays qu'on l'y prenait pour un être incivil ou insociable et que, mal accueilli des autres, il passait dans la solitude la plus grande partie de son temps. Vers cette époque, il fut appelé comme témoin aux assises de Carnarvon et descendit chez son procureur, un gallois plein de finesse et de ruse, dont la fille unique eut assez de charme pour captiver son hôte. Robert resta quelques jours seulement chez le légiste. Mais cela suffit pour que deux mois après, s'étant marié, il installa sa jeune femme à Bodowen. La nouvelle épouse était soumise, pleine de douceur. Elle adorait son mari, qui pourtant lui inspirait une certaine crainte en raison des études sérieuses dont la plupart des journées de Robert étaient remplies et auxquelles la jeune femme ne comprenait pas un mot. Elle lui donna bientôt une jolie petite fille, blanche et rose, qu'on appela Ogarad comme sa mère. Puis le temps s'écoula sans que rien de nouveau se produisît au manoir et les vieilles femmes avaient déclaré qu'on n'y bercerait plus d'enfants lorsque Mrs. Griffith mit au monde un fils, héritier de Bodowen. Non seulement elle avait beaucoup souffert durant tout le temps de sa grossesse, mais elle resta languissante pendant quelques mois et succomba sans avoir eu la force de réagir contre le mal. Robert aimait d'autant plus sa femme qu'il avait peu d'amis. Sa douleur fut excessive et, dans son désespoir, il ne trouva d'autre consolation que de s'attacher à son fils. la sensibilité féminine dont il était doué naturellement fut évoquée tout à coup par le pauvre orphelin qui lui tendait les bras avec cette ardeur suppliante qu'en général les enfants n'éprouvent que pour leur mère. Hogarade fut presque négligé. Le petit Owen devint le maître absolu du manoir. Sa sœur elle-même ne tarda pas à l'aimer d'une tendresse toute maternelle. Jamais il ne quittait son père, et le temps ne fit qu'augmenter cette habitude. Singulier genre de vie, aussi peu naturel que fâcheux. Il faut aux enfants de brillantes petites figures qui les regardent en souriant, des éclats de rire sonores, des voix claires et joyeuses. Tandis qu'Owen, dont la sœur, pauvre orpheline, était souvent bien triste, partageait la solitude de son père, que celui-ci resta dans la sombre pièce qui renfermait ses antiquités, ou qu'il s'enfonça dans les montagnes pour chasser, ou se promener à l'aventure. Lorsqu'ils arrivaient au bord de quelques ruisseaux écumants, trop difficiles à franchir pour Owen, Robert prenait l'enfant, qu'il déposait avec précaution sur l'autre rive. Quand celui-ci était fatigué, il le couchait dans ses bras ou le rapportait doucement au vieux manoir. Puis ils mangeaient ensemble, éveillés l'un près de l'autre, jusqu'à une heure parfois très avancée. Tout cela n'avait pas détruit chez Owen les bonnes qualités qu'il avait reçues de la nature. Mais il était sombre et malheureux. Sa physionomie avait quelque chose de pensif qui n'était pas de son âge. Et l'intérêt qu'il prenait aux études de son père avait développé son intelligence d'une façon maladive. Sir Griffith n'ignorait pas la prophétie d'Owen Glendower et savait bien qu'il représentait la génération en qui elle devait s'accomplir. Il en riait quelquefois lorsque par hasard il était avec ses connaissances, mais au fond du cœur, il en était plus vivement ému qu'il ne se plaisait à le reconnaître. D'une imagination exaltée qui le prédisposait à croire au merveilleux, Robert n'avait pas assez de force morale pour réagir contre cette tendance naturelle et pour écarter le sujet pénible qui le préoccupait de plus en plus. Il attachait sur la figure de son fils des yeux remplis d'amour qui semblaient vouloir interroger l'enfant et il le regardait ainsi jusqu'à ce que la légende, finissant par le dominer, lui causât une souffrance trop vive pour qu'il pût la concentrer en lui-même. D'ailleurs, l'amour passionné qu'il ressentait pour Owen avait plus besoin d'épanchement que de tendresse et lui faisait trouver un plaisir mêlé de crainte à reprocher à son fils la douleur que lui causait cette prédiction fatale. Sir Griffith raconta donc la légende au petit Owen tandis qu'ils erraient dans les bruyères par un de ces jours d'automne qui sont les plus tristes de l'année. Puis il la répéta un soir dans la grande pièce lambrissée de chêne, où les antiquités mystérieuses qui s'y trouvaient réunies prenaient des formes étranges à la lueur inconstante du foyer. Owen écoutait en tremblant les paroles de son père et, voulant jouir encore de l'émotion qu'elle lui avait causée, redemandait cette légende que Griffith lui redisait en y mêlant ses caresses et en s'arrêtant pour l'interroger sur son amour. L'enfant répondait avec effusion. Mais parfois, Sir Griffith repoussait les baisers d'Owen et lui criait d'une voix amère « Va-t'en, va-t'en, ne sais-tu pas comment tout cela doit finir ?» Owen allait avoir 12 ans et sa sœur Hogarade 17 ou 18 lorsque le recteur de la paroisse vint trouver Sir Robert et le pressa vivement d'envoyer son fils en pension. Cet ecclésiastique était le seul ami intime du squire dont il partageait les goûts. À force de répéter à celui-ci combien sa manière de vivre était fâcheuse pour un enfant de l'âge d'Owen, il finit par l'en convaincre. Bref, malgré la répugnance qu'il avait à se séparer de son fils, Robert plaça Owen à l'école grammaticale de Bangor, que dirigeait à cette époque un humaniste éminent. Une fois sorti de la maison paternelle, le jeune Griffith prouva que le recteur s'était trompé en disant que la vie de Bodowen lui avait atrophié l'intelligence. Il étonna ses professeurs par la rapidité de ses progrès et se distingua surtout dans l'étude des langues anciennes qui faisait, à vrai dire, la réputation du collège de Bangor. Mais il avait peu de succès parmi ses camarades. Son désintéressement, sa générosité même, ne rachetaient pas auprès d'eux son caractère chagrin et fantasque. Et la violence qui le dominait parfois, violence dont il avait hérité de son père, lui faisait perdre le bénéfice de sa douceur habituelle. Au bout d'un an, lorsqu'il vint en vacances, notre écolier fut tout surpris d'entendre dire que sa sœur Augarade, jusqu'ici restée dans l'ombre, allait épouser un gentilhomme gallois qui demeurait dans le midi de la principauté, aux environs d'Aberystwyth. Il est rare que les frères sachent apprécier leur sœur. Mais dans cette circonstance, Owen se rappela combien il avait été peu reconnaissant des bontés d'Augarade et donna cours à ses regrets que, par un besoin de contradiction égoïste, il exprima devant son père, au point que celui-ci finit par être douloureusement blessé, de l'entendre s'écrier sans cesse « Que deviendrons-nous quand Augarade sera parti ? Comme on va s'ennuyer quand Augarade n'y sera plus ?» Il est certain qu'après la noce et le départ des jeunes mariés, Owen et son père sentirent combien l'affectueuse Augarade leur manquait à tous les deux. Elle était si attentive et si douce, elle remplissait, avec dévouement et sans bruit, tant de menues fonctions d'où dépendait leur bien-être quotidien, qu'ils ne savaient plus comment vivre. La maison avait perdu l'esprit vigilant qui faisait régner l'ordre et la paix dans ses murs. Les domestiques allaient et venaient, cherchant en vain qui pût les diriger. Plus de fleurs dans les vastes pièces du manoir, plus de goût dans l'arrangement des meubles. Le feu brûlait tristement dans les grandes cheminées et s'éteignait au milieu d'un amas de cendres grises. Il en résulta qu'Owen retourna sans regret à Bangor, que Sir Griffith s'en aperçut et que, dans son égoïsme, il en ressentit une déception profonde. Les lettres, à l'époque dont il s'agit ici, étaient une chose assez rare. Owen en recevait une habituellement pendant le semestre qui suivait les vacances. Et quelques mois après, il avait la visite de son père. Mais cette année s'écoula sans qu'il reçût ni lettre ni visite, jusqu'au moment où, sur le point de retourner à Bodowen, un mot écrit à la hâte vint lui apprendre que son père était remarié. La lecture de ce billet fit tomber le jeune Griffith dans un de ces accès de rage dont nous avons parlé, et qui, cette fois, était d'autant plus violent qu'on ne pouvait réagir contre le fait qu'il avait provoqué. Indépendamment de l'affront que recevait la mémoire de sa mère, c'est ainsi que les enfants ne manquent pas d'envisager le second mariage de leurs parents. Owen s'était considéré jusqu'alors, et il avait eu raison, comme occupant la première place dans le cœur et dans l'esprit de Sir Griffith. Maintenant, il se trouvait quelqu'un entre lui et son père. On ne l'avait pas même consulté au sujet de ce mariage. On lui avait dit la chose alors qu'elle était faite, on avait eu pour lui moins d'égards que pour un étranger. Certes, on aurait dû l'instruire plus tôt d'un événement qui avait pour lui une si grave importance. Sir Griffith le comprenait bien, et c'est à l'embarras que lui causait cette faute qu'il fallait attribuer la froideur apparente qui régnait dans sa lettre, froideur qui augmentait encore l'amertume des sentiments de son fils. Owen, malgré toute sa fureur, ne put s'empêcher, en voyant sa belle-mère, de la trouver charmante, bien qu'elle eût déjà perdu la première fleur de la jeunesse, car elle était veuve lorsqu'elle avait épousé Robert Griffith. Jamais le pauvre garçon n'avait rencontré de femme aussi séduisante dans les familles des quelques amateurs d'antiquités où son père l'avait conduit quelquefois. Tant de grâce dans les mouvements et de douceur dans la parole firent tomber l'irritation qu'il avait éprouvée d'abord. Mais plus que jamais, il sentait qu'un nuage le séparait de Sir Griffith. Il comprenait que celui-ci n'avait pas oublié la réponse qu'il avait faite au billet qui lui avait appris ce mariage et que désormais il ne serait plus ni le confident ni le compagnon de son père, que le squire vivait maintenant pour sa nouvelle épouse et que le fils qu'il avait tant aimé n'était plus rien pour lui. Quant à sa belle-mère, elle était à son égard d'une prévenance qui allait jusqu'à l'importunité. Néanmoins, pensait-il, le cœur n'avait aucune part dans ses attentions qui voulaient être séduisantes. Deux ou trois fois, Owen avait surpris dans les yeux de la dame un regard qui lui faisait mettre en doute la sincérité des soins flatteurs dont il était l'objet. Mrs. Griffith avait amené avec elle un petit garçon de 3 ans qu'elle avait eu de son premier mari. C'était l'un de ces enfants malins et railleurs dont la conduite échappe à tout contrôle. Ces niches malicieuses, accomplies d'abord dans l'ignorance du mal qu'elles pouvaient faire, tiraient ensuite pour lui leur principal attrait de la souffrance qui en était le résultat. C'était en un mot l'un de ces lutins que le bas peuple croit être le fils de quelque mauvais génie et qui semble justifier cette superstition galloise. Les années s'écoulèrent. Owen, en grandissant, devenu plus fin observateur, remarqua dans les courtes visites qu'il faisait au manoir combien son père avait changé. L'influence de Mrs. Griffiths, irrésistible dans ses effets, avait opéré chez son mari une transformation complète. Le squire n'avait plus d'autre opinion que celle de sa femme, et cependant, celle-ci n'exprimait pas sa manière de voir. Il en était de même de tous les désirs qu'elle pouvait éprouver. Leur accomplissement se faisait si peu attendre qu'il paraissait toujours avoir été prévenu, tant elle possédait l'art de les faire naître dans l'esprit de son mari, qui croyait agir de son propre mouvement. Mrs. Griffiths abdiquait l'autorité pour en avoir la puissance. Owen, s'en étant donc aperçu, attribua dorénavant à sa belle-mère tous les actes de tyrannie dont les domestiques, et souvent lui-même, étaient victimes de la part de son père. Celui-ci, en outre, avait perdu ses habitudes de tempérance, et l'ivresse produisit bientôt son effet accoutumé sur le caractère de Sir Griffiths. Mais dans ses accès de fureur même, il s'inclinait devant sa femme et savait se contenir en sa présence. L'astucieuse créature n'en connaissait pas moins l'irritabilité du squire et la dirigeait à son gré avec un air de profonde ignorance à l'égard du mal qui pouvait en résulter. On se figure aisément combien Owen devait souffrir de la situation qui lui était faite, surtout quand il la comparait avec celle qu'il avait autrefois chez son père. On lui avait obéi aveuglément dans son enfance, avant qu'il pût trouver en lui-même un frein à l'égoïsme qu'une pareille conduite engendre presque toujours. Il se rappelait l'époque où ses moindres volontés étaient des lois pour les serviteurs et les tenanciers de Bonowen, et où son affection était indispensable à son père, qui maintenant paraissait l'éviter ou n'écoutait ses désirs les plus légitimes qu'avec indifférence. Peut-être Owen ne voyait-il pas les choses sous leur véritable jour. Il est rare que, dans un drame de famille, les acteurs conservent assez d'empire sur eux-mêmes pour ne pas s'égarer dans leur jugement. Quoi qu'il en soit, le jeune Griffiths, dont le caractère avait toujours été enclin à la tristesse, devint de plus en plus sombre. Il ne fit que penser avec amertume à son existence déshéritée d'affection et brûla du désir de rencontrer quelqu'un dont il pût être aimé. Ce besoin impérieux s'empara surtout de son esprit et de son cœur lorsque, après avoir quitté le collège, il se retrouva chez son père où il menait une vie entièrement désœuvrée. L'héritage qui devait lui revenir un jour le dispensait d'un travail obligatoire et la nécessité morale de se rendre utile aux autres n'était jamais apparue à Sir Robert, qui avait trop du gentilhomme gallois pour soupçonner pareille chose. Il est possible que le jeune Griffiths en eût l'idée, mais il était trop faible pour se résoudre à quitter un séjour où, cependant, il était abreuvé d'humiliation. Il y pensait néanmoins lorsque différentes circonstances le retinrent à Bodowen. On ne pouvait pas s'attendre à ce que la bonne harmonie se conservât longtemps, même en apparence, entre un jeune homme imprudent et une femme astucieuse, lorsqu'il s'agissait non plus de se supporter pendant une courte visite, mais de vivre ensemble un temps indéfini. La paix fut bientôt rompue et les hostilités commencèrent. Elles ne se trahirent point par des altercations bruyantes, mais par un silence hautain du côté d'Owen et de celui de sa belle-mère par la poursuite dédaigneuse et non déguisée des projets qui avaient amené la rupture. Le fils était devenu complètement étranger dans la maison paternelle. Personne ne guettait son départ et n'attendait son retour, personne ne pensait à lui. Et cependant, tous ses vœux, toutes ses actions étaient contrecarrées par son père, ayant à côté de lui sa femme, dont les lèvres silencieuses avaient un sourire de triomphe. Il en résultait qu'Owen passait le moins de temps possible au manoir et partait dès le point du jour. Quelquefois, il pêchait au bord de la mer ou chassait dans la montagne, mais le plus souvent, il se couchait sur l'herbe et s'abandonnait à une rêverie maladive. Il s'imaginait que sa triste vie était un songe dont il se réveillerait avant peu et qu'il se retrouverait comme autrefois l'unique objet de la tendresse de son père. Il se levait alors pour échapper au présent qui lui semblait un affreux cauchemar. C'était bien le même coucher du soleil qu'il voyait dans son enfance, la même lumière qui colorait les nuages de pourpre et qui s'évanouissait pour faire place aux pâles rayons de la lune, tandis que, çà et là, flottait une légère vapeur qui traversait l'Occident. La terre avait conservé le même aspect. C'était bien les mêmes bruits du soir, le même vent qui rasait la bruyère et les mêmes parfums qui s'élevaient de la prairie. Pourquoi son père avait-il changé depuis l'époque où ils s'arrêtaient tous les deux pour écouter cette harmonie sublime? D'autres fois, il allait s'asseoir dans un creux des rochers de Moelgest, où, abrité par un bouquet de sorbiers aux feuilles légères, les pieds sur un coussin d'herbe aux perles, il regardait la baie se déployer au-dessous de lui et suivait d'un œil pensif les bateaux pêcheurs dont le soleil faisait briller les voiles. Puis il tirait un vieux livre, son ancien compagnon d'études, et sous l'inspiration de la terrible légende qui était restée comme une ombre dans un coin de sa mémoire, il cherchait la tragédie qu'il avait lue tant de fois. Le volume s'ouvrait de lui-même à la page usée où commençait l'Édipe. Et Owen s'arrêtait palpitant sur l'antique prophétie qui offrait une si grande ressemblance avec celle de Glendower. Pensant alors au mépris dont il était l'objet, il éprouvait une sorte d'orgueil en songeant au rôle que la légende lui avait accordé, et il se demandait par quelle fatalité imprudente on osait ainsi provoquer le vengeur. Parfois, effrayé de lui-même, il se livrait avec frénésie à un exercice violent qui l'empêchait de sentir et de penser. Ou bien il se rendait à une petite auberge située au bord d'une route peu suivie, où le bon accueil des maîtres de la maison, bien qu'intéressés, contrastait d'une manière frappante avec la froideur qu'il trouvait dans sa famille. Un soir, Owen, il avait alors 24 ou 25 ans, fatigué d'avoir chassé depuis le matin dans les marécages de Clenny, passa auprès de la petite auberge dont la porte était ouverte. La lumière et la gaieté qui régnaient dans cette maison l'attirèrent, pauvre homme accablé de lassitude. Et comme tant d'autres, malheureux du présent et inquiet du lendemain, il entra au cabaret pour souper dans un endroit où du moins on serait content de le voir. C'était jour de gala dans la petite hôtellerie. Quelques centaines de moutons destinés à l'Angleterre couvraient la route de chaque côté de la porte. À l'intérieur, l'habile et joyeuse hôtesse, tout en allant et venant, prodiguait les saluts aux conducteurs de troupeaux qui venaient passer la nuit chez elle, donnait des ordres pour que les bêtes fussent parquées dans un champ voisin, et dans l'intervalle servait un repas de noces qui avait lieu dans la chambre du fond. C'était, comme on le voit, beaucoup de besogne pour la pauvre Martha. Mais son sourire n'en était ni moins gracieux, ni moins constant. Lorsque le jeune squire eut fini de souper, « J'espère, lui dit-elle, que vous avez trouvé bon tout ce qu'on vous a servi et que de manger vous a fait du bien. » Puis elle lui annonça qu'on allait danser dans l'autre chambre et que la harpe serait tenue par le fameux Édouard de Corwen. Moitié pour complaire au désir que son hôtesse lui exprimait par cette annonce, moitié par désœuvrement, Owen Griffith suivit le passage qui conduisait à la salle en question et s'appuya contre le mur en dehors de la porte dont les montants servaient de cadre à la scène animée qui se passait dans la pièce. La flamme rouge du foyer, ravivée de temps à autre par une nouvelle motte de tourbe, éclairait en plein quatre jeunes gens qui dansaient une espèce de branle analogue à celui d'Écosse et qui, dans leurs mouvements rapides, conservaient à merveille la mesure de l'air que jouait le fameux harpiste. Ils avaient leurs chapeaux sur la tête, mais s'étant animés peu à peu, ils jetèrent leur coiffure au loin et se débarrassèrent de leurs souliers, qu'ils lancèrent également avec force, sans s'inquiéter de l'endroit où ils pourraient tomber. Des applaudissements frénétiques saluèrent cette preuve d'adresse, dans laquelle chacun des danseurs paraissait avoir pris à tâche de surpasser les autres. À la fin, n'en pouvant plus, ils allèrent se rasseoir et le musicien passa graduellement à l'une de ces mélodies nationales pleines de verve et d'inspiration auxquelles il devait sa célébrité. Les auditeurs, groupés autour de lui, l'écoutèrent bouche béante et sans oser reprendre haleine. Quand il eut fini d'exécuter la marche des hommes d'Arlec, il joua l'air des 300 livres et aussitôt, l'un des jeunes gens qui se trouvait là chanta un récitatif divisé par strophes nombreuses. Un autre reprit ensuite ce chant monotone qui paraissait interminable. Owen, fatigué, allait partir, lorsqu'un certain tumulte fut occasionné à l'autre bout de la salle par l'entrée d'un homme d'environ 50 ans et d'une jeune fille dont ce dernier paraissait être le père. Le nouveau venu se dirigea vers le banc des vieillards, où il fut accueilli par les paroles touchantes du salut gallois « Comment ton cœur est-il ?» Et chacun, après avoir bu à sa santé, lui passa le gobelet rempli d'excellents courroux. Sa fille, évidemment la belle du village, n'était pas moins bien reçue par les danseurs, tandis que la partie féminine de l'assemblée lui jetait des regards peu bienveillants, qu'Owen Griffith mit sur le compte de l'envie. Elle était de taille moyenne, comme la plupart des femmes galloises, mais admirablement faite et d'un léger embonpoint qui donnait de la rondeur à ses membres délicats. Son petit bonnet, ajusté avec soin, allait à merveille à sa figure excessivement jolie, sans que les traits en fussent réguliers le moins du monde. Son charmant visage était rond, presque ovale, d'une extrême fraîcheur, bien que la peau en fût très brune. Le menton et les joues étaient troués de fossettes, et les lèvres, trop courtes pour se rejoindre et cachées de petites dents perlées, étaient les plus rouges qu'Owen eût jamais vues. Le nez pouvait être critiqué, mais les yeux étaient splendides, si bien fendus, si brillants, et pourtant si doux parfois, sous leur frange épaisse de cils noirs. Les cheveux châtains, soigneusement nattés, se relevaient sous le bord de la coiffe de dentelle. Assurément, la jeune fille savait faire valoir ses charmes, car les couleurs de son fichu s'harmonisaient à merveille avec la nuance de son teint. L'évidente coquetterie avec laquelle cette jeune beauté répondait à la foule d'admirateurs qui l'entouraient amusa le gentilhomme. Et bientôt, le fils du seigneur de Bonowen fut lui-même aux côtés de la charmante paysanne, dont il captiva si bien les regards que les pauvres négligés s'éloignèrent pour aller s'asseoir auprès d'une belle qui fut plus attentive. Le jeune squire était subjugué. La jolie fille avait plus d'esprit et d'instruction qu'il ne l'aurait cru possible. Elle joignait à cela un abandon plein de charme, et sa voix pure était si douce, son attitude si gracieuse, qu'entièrement fasciné sans le savoir, Owen s'oubliait à contempler cette figure rougissante dont les yeux s'étaient baissés vivement sous son regard. Tandis qu'ils étaient silencieux, elle toute confuse de l'admiration qu'elle inspirait, lui s'étonnant de la voir devenir plus belle encore, le père s'approcha, dit quelques mots à sa fille, puis, ayant adressé la parole à Owen, finit par l'entretenir d'un endroit de la presqu'île de Penfrin, où il y avait beaucoup de sarcelles. Bref, il termina en demandant au jeune gentleman la permission de le conduire à ce marécage, si jamais il avait envie d'y aller. Sir Griffith n'aurait pour cela qu'à venir le voir et à lui faire l'honneur d'accepter une place dans son bateau. Owen, tout en écoutant cette proposition avec plaisir, n'était pas tellement absorbé par les paroles du père qu'il ne s'aperçut de la conduite de la fille. Celle-ci refusait toutes les invitations qui lui étaient faites de prendre part à la danse. Et notre jeune homme, flatté de ces refus qu'il interprétait en sa faveur, redoubla d'attention pour la jeune paysanne, jusqu'au moment où le père vint annoncer qu'il était temps de partir. « Peut-être, dit celui-ci à Owen, après lui avoir rappelé sa promesse, peut-être ne me connaissez-vous pas. Mon nom est Elise Pritchard et je demeure à Tiglas, de ce côté-ci de Moetgeest. Il n'est personne qui ne puisse vous en indiquer le chemin. » Owen, de son côté, se disposait à retourner au manoir lorsque, rencontrant Martha, il ne put résister au désir de la questionner sur Elise Pritchard et surtout sur la fille de celui-ci. L'hôtesse fit une réponse un peu brève, quoique respectueuse, et ajouta en hésitant « Vous connaissiez les trois choses qui se ressemblent, maître Griffith. Une belle grange sans blé, une belle coupe sans breuvage, une belle fille sans réputation. » Puis elle s'éloigna précipitamment et Owen reprit avec lenteur le chemin qui conduisait chez son père. Elise Pritchard, mi-pêcheur, mi-fermier, assez généreux et brave homme pour être aimé de ses égaux, n'en était pas moins rempli d'astuces et d'ambition. Il avait été frappé de l'effet produit par sa fille sur le jeune Griffith et n'était pas insensible aux avantages qui pourraient en résulter. Ce ne serait pas la première paysanne qu'on aurait vue transplanter dans un château du pays de Galles. Et c'était sous l'influence de cette idée que le fin matois avait donné au jeune admirateur un prétexte qui lui fournit l'occasion de revoir celle qu'il aimait déjà. De son côté, la jolie Nef avait bien un peu de l'esprit positif de son père. Flattée de la position qu'occupait dans le monde son nouvel adorateur, elle n'hésita pas à lui sacrifier tous ceux dont elle avait jusqu'alors accepté les hommages. Mais il y avait dans son désir de conserver les bonnes grâces d'Owen et de gagner son amour plus de sentiments que d'intérêt. Nest avait été profondément touchée de l'admiration que lui avait témoignée le gentilhomme. Elle était fière d'avoir attiré ses regards dès qu'il l'avait aperçue et ne restait pas insensible à la figure expressive, à la belle taille et aux manières élégantes du jeune seigneur. Quant aux paroles de Martha au sujet de la réputation de Nest, elles étaient bien un peu dures. Le fait est que la charmante fille avait besoin d'admiration, ou plutôt qu'elle aimait à plaire. Elle trouvait un bonheur infini à charmer tout le monde de sa voix et de son sourire, depuis les vieillards, hommes ou femmes, jusqu'aux plus petits enfants. Comme elle avait perdu sa mère en bas âge, il faut bien dire qu'elle était allée jusqu'aux dernières limites de la coquetterie. On ne pouvait pas lui reprocher autre chose. Mais les anciens du village avaient secoué la tête et défendu à leur fille d'aller trop souvent avec elle. Même à l'instant où ils les avaient écoutés, l'amoureux Owen avait attaché peu d'importance aux paroles de Martha et leur souvenir s'était complètement effacé lorsqu'au bout de quelques jours, il profita d'un beau soleil pour aller voir Elise Pritchard. À mesure qu'il approchait de la ferme, son cœur battait plus vite. C'était à vrai dire la première fois qu'il aimait. On ne peut pas qualifier du nom d'amour les divers caprices qu'il avait occupés d'une manière peu sérieuse lorsqu'il était à Oxford, et ses pensées avaient pris une direction bien différente depuis qu'il habitait le manoir. Tiglas était adossé au rocher de Moët Guest, dont la muraille formait l'une des parois de la maison. Peu élevée et très longue, en raison de sa largeur, cette habitation rustique était bâtie d'énormes galets détachés de la falaise, grossièrement réunis par du mortier, et laissant entre eux, de loin en loin, de profondes ouvertures qui renfermaient d'étroites fenêtres. L'extérieur en était plus primitif qu'Owen ne l'avait supposé, mais intérieurement, elle ne semblait pas dénuée de confort. On y trouvait deux pièces avec leurs dépendances, l'une très spacieuse et un peu sombre, où entra immédiatement le jeune Griffith, et qu'il put examiner en détail avant que la jolie Nes fût revenue de sa chambre où elle était allée faire quelques changements dans sa toilette. Sous la fenêtre se trouvait une armoire en chêne, d'un bois magnifique et d'un poli brillant. À l'autre bout de la salle étaient deux lits également en chêne et complètement fermés, suivant la coutume galloise. C'était là que dormait Elise Pritchard et l'individu qui le secondait dans ses travaux agricoles et maritimes. Un rouet à filer la laine, placé au milieu de la salle, paraissait avoir servi quelques minutes auparavant. Des jambons, des quartiers de chevreuil, du poisson de différentes natures étaient suspendus autour de la cheminée où ils séchaient pour l'hiver. Pritchard raccommodait ses filets sur la grève au moment où le jeune squire se rendait à la ferme. L'ayant aperçu, il avait quitté sa besogne pour le recevoir et venait d'entrer dans la salle lorsque la jolie Nef parut à son tour, les yeux baissés, le front couvert de rougeur, et sembla plus charmante que jamais à l'amoureux jeune homme. Il faisait trop chaud, trop de soleil, trop de vent, trop de ce que vous voudrez, pour qu'on pût aller maintenant à la recherche des sarcelles, et Owen Griffith accepta avec joie l'offre timide qui lui était faite de partager le dîner du pêcheur et de sa fille. Du fromage de brebis sec et dur, quelques tranches de chevreau fumées et grillées, après avoir été trempées dans l'eau fraîche pendant quelques minutes, des tourteaux d'avoine, d'excellent beurre, de très bon lait et, pour breuvage, de la boisson faite avec des sorbes, composait tout le menu. Mais la table était si proprement servie, l'accueil si franc et si cordial, que Maître Owen avait rarement fait de repas qu'il eût trouvé meilleur. À dire vrai, l'ordinaire des gentilshommes gallois, à l'époque dont nous parlons, ne différait guère de celui de leurs tenanciers que par l'abondance et non par la qualité des mets. Aujourd'hui, les gens riches du pays de Galles sont complètement au niveau de ceux d'Angleterre quant au luxe et à toutes les recherches de la vie élégante. Mais dans ce temps-là, où vous n'auriez trouvé qu'un seul service d'étain dans le comté de Northumberland, rien dans la manière de vivre d'Elise Pritchard ne blessait les habitudes d'Owen Griffith. Les jeunes amants dirent peu de choses pendant toute la durée du repas. Ce fut Pritchard qui fit tous les frais de l'entretien, sans remarquer, du moins en apparence, le peu d'attention que lui accordait son hôte et les regards pleins d'ardeur que celui-ci attachait sur sa fille. Plus son amour devenait sérieux, plus Owen éprouvait d'embarras à le témoigner, et le soir, quand il revint de la chasse avec le pêcheur et qu'il s'approcha de Ness pour prendre congé d'elle, le salut qu'il lui adressa fut offert non moins timidement qu'il était accepté. Cette première visite inaugura pour Owen une série de beaux jours consacrés, en réalité, à la jolie fermière de Tiglas, bien qu'il crût devoir, en commençant, déguiser le motif qu'il attirait chez Pritchard. Tout ce que la coquetterie et l'amour peuvent inspirer à la femme, tout ce que l'ambition et l'intérêt peuvent suggérer à un homme, fut mis en pratique par Elise Pritchard et sa fille pour rendre leur maison agréable au jeune squire et pour l'y attirer. Il suffisait d'ailleurs de le bien recevoir pour qu'Owen trouvât du plaisir à multiplier ses visites. Chez son père, le peu de bienveillance que rencontraient ses paroles l'empêchait d'exprimer sa pensée. Ce n'était jamais à lui qu'étaient adressées les expressions affectueuses qui frappaient son oreille. Personne ne s'inquiétait de son absence et n'attendait son retour. Quand il arrivait à Tiglas, au contraire, chacun se réjouissait de le voir. Le chien lui-même s'efforçait, par ses aboiements joyeux, d'attirer son attention et d'avoir une caresse. On lui demandait ce qu'il avait fait, ce qu'il était devenu depuis sa dernière visite. Ses moindres mots rencontraient chez Élise un auditeur attentif, et quand il s'approchait de Ness, qui était occupée soit à son rouet, soit à faire le beurre, la coloration plus vive de la jeune fille, le regard qui répondait au sien, l'abandon avec lequel cette petite main lui était donnée, le transportaient dans un monde rempli de délices. Pritchard, en sa qualité de tenancier de Bodowen, avait plus d'une raison pour désirer qu'on ignorât les visites du jeune squire. Owen, de son côté, ne voulant pas troubler ses jours paisibles par un orage domestique, employait tous les moyens que lui suggérait Elise pour dissimuler ses relations avec Tiglas. Il y mettait d'autant plus d'empressement qu'il espérait bientôt arriver au comble de tous ses vœux. Pritchard n'avait pas d'autre désir que de voir sa fille épouser l'héritier de Bodowen. Et quand la jolie Ness eut caché sa figure sur la poitrine de son amant, après lui avoir fait bien bas l'aveu de son amour, Owen ne songea plus qu'à légitimer son bonheur. Sans avoir des principes bien rigoureux, il avait tant besoin d'une affection durable qu'il voulait s'assurer le cœur de Ness en se l'attachant par les liens du mariage. À cette époque, il n'était pas difficile, dans la principauté de Galles, de s'unir secrètement. Un jour de la fin d'automne, où le vent soufflait avec violence, Pritchard fit descendre les deux jeunes gens dans son bateau, les conduisit à Llandudwin, et eut la satisfaction de voir sa petite Ness devenir l'aînée de Bodowen. Qui n'a pas vu de jeunes filles légères et coquettes se transformer par le mariage en femmes sérieuses et pénétrées de leurs devoirs? Leur vie est désormais fixée. Pourquoi, lorsqu'on a fini par l'atteindre, s'éloignerait-on du but que l'on cherchait avec ardeur? Elles semblent réaliser la fable d'Ondine. Leur avenir est à la fois paisible et radieux. Une tendresse, une quiétude indicible remplacent ce besoin de plaire qui les poussait à rechercher l'admiration. Leur existence est pleine du rayonnement de l'être aimé. C'est un souffle nouveau qui les anime et les transfigure. Si, dès leur première rencontre, Ness Pritchard avait recherché les hommages du jeune squire de Bodowen, ce sentiment avait bientôt disparu devant un amour sincère. Et maintenant qu'elle était sa femme, elle employait toutes ses facultés à le dédommager des ennuis qu'il éprouvait ailleurs. Elle trouvait chaque jour de nouvelles paroles pour lui exprimer sa tendresse. Elle n'avait d'autre étude que de se conformer à ses goûts et le lui prouver par l'emploi de son temps, par sa toilette et par le tour de ses pensées. Il n'était donc pas surprenant qu'Owen songeât avec plus de bonheur et de gratitude au jour de son mariage qu'il n'arrive d'ordinaire lorsqu'on a fait une mésalliance. Il n'est pas étonnant qu'il fût aussi ému qu'autrefois quand il approchait de Tiglas et qu'au détour du sentier, malgré l'âpreté de la bise d'hiver, il apercevait Ness guettant son arrivée dans l'ombre. Il oubliait alors les paroles irritées, les actes malveillants qu'il avait blessés au manoir pour ne songer qu'à l'amour dont il était l'objet. et il aurait défié ses ennemis de troubler son repos et son bonheur s'ils s'étaient rappelés leurs efforts impuissants. 10 mois passèrent et l'automne allait finir quand, un matin, accourant à Tiglas, où l'avait appelé en message mystérieux d'Élise, Owen, salué en entrant par un faible cri, s'approcha de Ness qui, pâle et souriante, lui présenta son fils et lui parut plus belle que le jour où elle avait gagné son cœur à l'auberge de Penmorfa. Mais la malédiction faisait son œuvre et la prophétie devait bientôt s'accomplir.